Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
15 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. C'est une journée importante parce que c'est vraiment aujourd'hui que le passeport vaccinal va être demandé dans les restos, dans les gyms. C'est vrai depuis le 1er septembre, mais cette fois-ci, les sanctions, les mesures entrent en vigueur. On était en période de rodage et là, il n'y a pas de passe-droit. Je rappelle la mécanique. Vous arrivez exemple au resto. On vous demande votre passeport, votre code QR et une pièce d'identité. Il y a quelques exceptions, là, on s'entend, là, mais grosso modo, c'est ça. Et là, les restaurateurs, qui, je le sais, trouvent ça un peu lourd, là, vont devoir le faire et tenir cette espèce de registre de code. Donc, ça commence officiellement aujourd'hui avec les sanctions prévues par la loi. Maintenant, pour ce qui est de la météo, la pluie forte au cours de la nuit, les averses vont cesser. Il y a également du temps nuageux par la suite, des vents jusqu'à 40 km/h, des vents légers donc au cours de l'après-midi. Le maximum 22, l'humidex est à 27, c'est vrai que c'est humide de ce matin. En soirée, on prévoit un dégagement après une couverture nuageuse là pour les premiers moments de la soirée, avec un minimum de 13 pour la nuit prochaine. Et puis, on prévoit quand même du temps généralement ensoleillé. Demain, maximum 23 et l'humidex est à 25. Je parlais du passeport vaccinal il y a quelques instants. C'est sûr que tous les jours, je suis inondé de courriels de gens qui, évidemment, sont contre le passeport vaccinal et surtout qui ne comprennent pas pourquoi des gens vaccinés sont d'accord avec le passeport et ne veulent pas être avec des gens non vaccinés. Puis là, on peut penser au milieu de travail. Ça me tente pas d'argumenter. Ça me tente pas de partir un débat. Je vais juste vous donner une réponse scientifique. Elle vient pas de moi, OK? Quand vous parlez au Dr Weiss à peu près chaque semaine, puis que vous parlez, puis que vous lisez d'autres études, la charge, disons, du virus, la charge virale pour les gens qui sont vaccinés, elle existe, mais elle est moins forte que les non-vaccinés. Autrement dit, les gens non-vaccinés peuvent plus facilement contaminer ceux avec qui ils ont des contacts. C'est tout. Alors, t'as pas envie, même si t'es doublement vacciné, d'augmenter le potentiel, parce que t'as pas envie d'avoir même des effets secondaires s'ils sont modérés, mais quand même qui peuvent être dérangeants. C'est tout. Je sais que c'est bien difficile à comprendre pour bien du monde. Et ce qui me pèse quand je vois des courriels, c'est quand on me sort ma liberté. Tu sais, t'as le droit d'être individualiste, t'as le droit de te foutre des autres. Puis moi, j'aurais pas le droit de dire, excuse-moi, là, oui, on va mettre des règles. Et je veux pas que ça soit éternel. Les pays qui l'ont introduit ont fini par le retirer. Regardons ce qui se passe au Québec actuellement. D'abord, on le sait, il y a plus de cas. Et les gens qui sont hospitalisés sont des non-vaccinés. Pour la plupart, la grande majorité. Alors ça, c'est ce matin dans Le Devoir, par exemple. Flambée des cas à Montréal, les milieux de soins pour aînés commencent à écoper pour la première fois depuis des mois. C'est une quatrième vague qui prend de l'ampleur. Puis on sait que ça passe par... Ça commence à passer maintenant par certains cas dans des résidences, mais dans les écoles, dans les garderies, puis dans certains milieux de travail. Et souvent, ce sont des gens non vaccinés. S'ajoutent à ça deux éléments. Premier, les tests, les fameux tests de dépistage qu'on s'est finalement décidé à distribuer dans les écoles. C'est un non-sens que ça soit pas mieux fait, mieux organisé. Semble-t-il que c'est encore la santé publique qui tardait. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre le ministre Roberge. Mais là, on va le faire. C'est le patron de la vaccination qui va s'en occuper. Très bien. Deuxièmement, une étude nous disait que les gens vont peut-être moins se faire tester, que des gens qui ont des symptômes hésitent, sont pas certains, ont peur des conséquences. Ben, c'est parce que ce qu'on remarque terrain, là, c'est que c'est plus compliqué de se faire tester. On a fermé des centres, des sans-rendez-vous qui finalement se transforment en rendez-vous. Fait que de bien des gens qui doivent se déplacer. Le soleil, ce matin, donne des exemples. Sur la rive sud, ça a l'air qu'à Chambly, tu peux pas te faire tester. Faut que tu ailles un peu plus loin à Saint-Jean. C'est pas le bout du monde, mais quand même. Alors, c'est sûr que il y a eu des ajustements. Troisième point, c'est évidemment l'effet sur le réseau de la santé. Puis là, on va se le dire, là, le réseau de la santé au Québec, des attentes, des reports de chirurgie, il y en a toujours eu. Et le chiffre qui faisait toujours frémir, c'était les patients qui attendaient au-delà du délai médicalement acceptable. Fait que là, on disait, il y a X nombre de patients au Québec qui vont être opérés ou qui vont peut-être mourir, là, après le délai médicalement acceptable. Alors, qu'est-ce que Christian Dubé a dit hier, le ministre de la Santé? Ben, d'abord, que là, c'est sûr qu'il ne pourra pas atteindre les objectifs de rattrapage des chirurgies qui s'étaient fixées. Donc, deux éléments, là, pour les Québécois qui veulent se faire soigner puis qui attendent une opération ou qui vont avoir affaire à l'urgence. La combinaison d'un réseau qui, de toute façon, connaît des ratés, des problèmes, d'un réseau qui, disons-le, peut être assez lourd et bureaucratique, le manque de personnel, c'est une crise majeure. On parle des infirmières, mais on peut parler également de d'autres catégories d'employés qui quittent. Puis on donne des exemples ce matin de blocs opératoires. Regardez à Radio-Canada. L'hôpital Charles-Lemoyne, 7 des 10 salles d'opération sont utilisées 5 jours par semaine. On ne parle même pas d'opérer 7 jours, là. L'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean, 5 salles, 3 jours semaine. Pas de personnel. Le médecin veut opérer, mais on n'a pas de personnel pour le bloc opératoire. Puis on n'a pas le personnel parce que, dans beaucoup de cas, la personne reste hospitalisée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attente va se prolonger, qu'on va faire du délestage. Et Montréal n'échappe pas à ça non plus, là. On sait qu'il y a des problèmes dans des services d'urgence. T'es obligé de fermer à des places l'urgence des hôpitaux, installer une ambulance, puis dire aux patients, idéalement, allez ailleurs, allez vous faire soigner. Donc, c'est ça le portrait. Et quand on parle des patients non-COVID qui vivent les conséquences des choix des gens qui sont non vaccinés, puis là, qui viennent engorger le système, qui occupent des lits plus longtemps, puis quand vous regardez aussi en termes d'âge, on se rend compte que beaucoup de cas de gens de moins de 50 ans dans les cas lourds. Alors, cette quatrième vague est en train de s'articuler, puis encore une fois, puis c'est clair que le système de santé québécois, il chambranle en partant. Fait que quand le vent embarque, ça prend peu de choses pour le faire, disons, basculer. Et la problématique de la main-d'œuvre, les infirmières, je vais vous donner un exemple de courriel que je reçois, là. Une infirmière qui veut revenir, puis qui se fait dire, tu recommences au bas de l'échelle. Des jeunes qui veulent entrer dans le réseau, mais ça a l'air bien compliqué. Et rien qui, je dirais, les stimule. Il y a une pénurie de main-d'œuvre généralisée au Québec dans un paquet de domaines. Mais là, comment tu fais pour convaincre les gens de venir travailler? Et là, ce matin, juste pour conclure là-dessus, la presse, en gros, là, nous explique que le gouvernement du Québec a payé 1 milliard, le double de l'année précédente, donc en 2021, 2020, c'est-à-dire 2021, pour des agences privées. Mais là, attention, là, agences privées, là, ça comprend tout, là. Ça comprend les agences de sécurité, ça comprend l'organisation, par exemple, des fameuses cliniques. Bref, faut se rappeler que première vague, la pandémie, il manquait 12 000 personnes dans le réseau de la santé. Alors, on embauche plus d'agences puis plus d'infirmières. Puis là, c'est les infirmières quittent, vont travailler dans le privé, dans des cliniques privées, dans des agences privées, reviennent dans le réseau, puis considèrent que la vie est plus agréable. Fait qu'on va courir combien de temps comme ça? T'sais, on négocie, on signe des conventions, puis là, tu dis, OK, est-ce que ça va marcher? Puis tu peux pas gérer à coup de temps supplémentaire. Puis la présidente de la FIC, Mme Nancy Bédard, elle me disait quoi hier? Ah, les gens sont sceptiques. Puis les gestionnaires, entre ce qu'il y a dans la convention, puis les gestionnaires, puis il y en a pour qui c'est une méthode, puis pourquoi d'ailleurs ça marche. C'est qu'à un moment donné, tu n'es plus capable sérieusement d'entendre le discours. Tu dis, pouvez-vous vous asseoir puis régler ça une fois pour toutes? Comment je fais? Puis écoutez la base. T'es pas juste les bureaucrates puis les leaders syndicaux. Écoutez la base. Comment je te ramène dans le réseau de la santé? Puis comment j'essaie de te convaincre de rester? Puis c'est pas juste la paye. C'est pas juste la paye. Tu sais, les grands experts dans tous les domaines vous diront que la conciliation travail-famille, c'est ça qui est essentiel. Fait que je comprends une infirmière qui se dit le temps supplémentaire obligatoire qui fait en sorte que je vois pas mes enfants puis que je repars travailler, une fois, c'est correct. Mais là, ça peut pas être, disons, partie prenante de la gestion. On peut pas dire que le réseau de la santé est en grande forme, si vous voulez mon avis, quand on regarde l'ensemble des données là-dessus. Alors, fait le tour concernant le dossier COVID. Peut-être ajouter que dans la presse ce matin, conséquence du l'enseignement à distance puis des examens à distance, la pandémie a fait grimper les cas de plagiat dans les universités. Il paraît que ça a doublé. Et dans certains établissements, on compte des centaines de cas. Et on espère que le retour, donc, en présentiel va faire en sorte que le plagiat sera moindre. Maintenant, encore des militants anti-vaccins qui sont allés se promener devant une école secondaire à Montréal. J'ai aucune patience pour ça. Devant des hôpitaux puis des écoles, sacrez-leur patience. Et c'est toujours le même en passant, là, les 3-4 mêmes bouffons là, qui vont se présenter. Et ils sont pas nombreux, mais toujours les mêmes faces, les mêmes. Ils ont rien que ça à faire, ils sont en plein là-dessus. Ils ne veulent pas se faire vacciner, parfait. Puis il faut que les directions d'école, pardon, réagissent rapidement, puis il faut que la police intervienne rapidement pour les tasser des hôpitaux, puis les tasser devant les écoles. Parce que là, on est dans la dérape, là. Puis vous avez peut-être entendu le vox pop de Guy Nantel. Je veux pas en rajouter. Mais quand je vois des gens qui brandissent la croix gammée, parce que là, c'est rendu que la croix gammée puis le régime nazi est utilisé à toutes les sauces. Des gens qui n'ont aucune connaissance historique, qui savent pas c'est quoi la Shoah, puis savent pas en tout, ou ils veulent pas le savoir, là, puis qui comparent la situation du Québec au régime hitlérien, faut vraiment être cave ou ignorant. Mais une que je comprends pas, c'est Maître Goldwater, d'origine juive, qui compare la loi 96 à la Gestapo du régime nazi. La loi sur le français. Là, tu disais un peu, là. Quelqu'un d'articulé compare ça à la Gestapo, c'est de l'enflure verbale. Elle sait pas c'est quoi la Gestapo, Mme Goldwater? Sérieusement? Puis il y en a combien qui délirent de cette façon-là? Fait que tu sais, t'as le droit d'avoir des opinions contraires, t'as le droit de vouloir débattre. Mais à un moment donné, le mépris, le racisme, l'insignifiance, ça commence à être beaucoup. Un sondage ce matin, assez prévisible, sondage concernant la suite du débat des chefs en anglais, donc la fameuse question qui a été posée aux Québécois et au Canada, au reste du Canada. Alors, la question, je la résume. Laïcité et protection de la langue française, les lois qui ont été créées ou les projets de loi qui ont été déposés. Donc, est-ce que ce sont des lois discriminatoires? Et rappelons-nous que tout ça était associé avec des problèmes de racisme. Question posée au chef du Bloc québécois et François Blanchet. Alors, 65% des Québécois disent non, c'est pas approprié de poser la question. Puis quand on leur demande la loi sur la laïcité et le français, est-ce que vous considérez que c'est discriminatoire? 62% disent non. 26% disent oui. Même question au Canada. 41% disent oui, c'est discriminatoire, mais 41% ne le savent pas, pas trop trop au courant de ce débat-là. Et 19% disent que non. Et au Canada, on pense pas que le français est menacé. Alors, c'est sûr que ces deux perceptions, ce sont des sensibilités extrêmement différentes, mais on a vu le tollé que ça a généré au Québec, puis on a vu l'effet aussi sur le vote, en tout cas dans les sondages. Ça a permis, comme on dit, au Bloc québécois d'aller chercher des points payants qui pourraient se traduire par des comtés supplémentaires le soir de l'élection. Mais je trouve toujours, puis je voyais ce matin, là, quelqu'un qui s'occupe d'un refuge pour autochtones, puis qui est convaincu que si la loi qui renforce le français passe, que si elle appelle le 911 parce qu'elle est en détresse et qu'elle parle anglais, on va lui raccrocher au nez. C'est ce genre de message-là qui passe. Vous et moi, là, c'est assez sérieux. Campagne électorale, bon, ben évidemment, on est dans le sprint vers le jour du vote. Et il y a un dossier qui est intéressant. D'abord, François Legault s'en est mêlé, on le sait, là. Dans un premier temps, dit « Moi, je pense que j'ai davantage d'atomes crochus avec O'Toole des conservateurs. » Puis il va nous faire des chèques, peut-être pour les garderies, mais pour les autres, sans poser de conditions. En tout cas, plus que le NPD, plus que les conservateurs, les libéraux de Justin Trudeau. Et là, en même temps, ben là, il n'y a plus de bloc depuis le débat. Puis là, on apprend que M. Fortin, député libéral, est allé aider Justin Trudeau. Moi, j'ai envie de dire, mais de quoi se mêlent les politiciens provinciaux, là? Et rare que tu vois ça aussi clairement. C'est vrai que les libéraux fédéraux provinciaux, pas mal souvent le même monde, les mêmes organisateurs. Pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et arrive aussi toute la question, encore une fois, du fameux troisième lien. Puis à Québec, il faudrait voir peut-être les sondages, mais on prétend qu'il y a de moins en moins de gens qui appuient ce fameux troisième lien, là, qui va coûter minimalement 10 milliards de dollars. Et juste un petit mot en terminant sur un livre qui est écrit par Bob Woodward, le célèbre journaliste, et Robert Costa. Bob Woodward, c'est un des deux qui avait mis sur la place publique le scandale du Watergate et que le président Nixon avait pris une débarque. Alors, il raconte dans son livre les derniers moments de l'administration Trump et il dit, je cite, que le grand patron des forces armées américaines, le président des chefs interarmées, a dû appeler deux fois son vis-à-vis chinois dans le dernier mois de l'administration Trump, pour le rassurer et lui dire que le président n'avait pas l'intention de lancer des missiles nucléaires. Les rumeurs voulaient que Trump tente une opération pour changer l'agenda et qu'on ne parle plus du vote, de son départ, du fait qu'il conteste et qu'il est en mode d'échec tout le temps, à un point tel que les rumeurs étaient, disons, inquiétantes, que le général a convoqué les autres généraux pour leur rappeler comment on procède pour lancer des missiles nucléaires et pour être bien certain que ça se fasse pas. C'est un exemple des moments de délire de la fin du président. Et quand vous recoupez ça avec d'autres livres, peux-tu vous dire qu'il y en a eu beaucoup?
L'essentiel de Paul Arcand.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Marianne Saint-Gelais.
J'étais pas fière de mes médailles. Je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité. J'ai absolument rien.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
L'essentiel de Paul Arcand.
Notre invité ce matin, le chef du Bloc québécois qui est en studio, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien le bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, qu'est-ce qui s'est passé en Acadie? Première question, vous deviez vous y rendre, ça a été annulé. Les gens d'Acadie disent on n'a pas besoin du Bloc pour défendre nos intérêts. Qu'est-ce qui est arrivé?
J'ai un considérable malaise parce que ma relation avec le président est était passablement amicale et cette rencontre-là était bien convenue. On a même des preuves, là, c'est eux autres qui ont annulé la rencontre, mais l'enjeu n'est pas qui a annulé la rencontre. L'enjeu, c'est de vraisemblables pressions exercées sur le conseil d'administration dans une région qui est rouge mur à mur, évidemment. Jusque-là, je peux comprendre, mais quand ça devient ou quand ça prend la forme d'un communiqué, on n'a pas besoin du Bloc québécois, puis rien. Je rappellerai aux journalistes qu'il y a eu une espèce de mini-scandale au Nouveau-Brunswick il y a quelques mois, quand un courriel envoyé par le président, M. Doucet, avait été rendu public et il disait à ces gens, nous avons maintenant un allié et un porte-parole à la Chambre des communes, c'est le Bloc québécois, et nous avons des perspectives stratégiques ensemble. C'est son propre courriel. Fait qu'aller dire après qu'il n'y a pas besoin du Bloc québécois et qu'il n'y a jamais eu de conversation avec le Bloc québécois, c'est singulier. C'est plus déplorable qu'autre chose. Je pense qu'on va reconstruire les ponts avec tout le monde parce qu'il est exact que les gens qui ont le plus
défendu... Mais avez-vous l'intention de porter à la Chambre des communes des dossiers qui concernent les Acadiens?
Oui, parce que c'est pas un enjeu des institutions, des Acadiens ou des francophones de Québec, c'est un enjeu de la langue française et des individus, des gens, des personnes qui vivent et qui veulent vivre en français ailleurs. On a un devoir de solidarité et d'amitié qui était existant sous René Lévesque, qui était existant sous Lucien Bouchard, puis qui est encore existant. Ça devra toujours être okay. Là, malgré des moments où on peut avoir des mésententes ou être l'objet de pressions politiques.
OK. Sondage ce matin qui montre que l'après-débat en anglais a provoqué, d'abord, on l'a vu dans les intentions de vote, une hausse pour le Bloc. Puis là, on voit la différence entre ce qui se passe au Québec, ce qui est perçu au Québec, puis ce qui est perçu dans le reste du Canada. Grosso modo, 60 % des Québécois disent qu'ils sont... Il n'y a pas de discrimination là, quand on parle de la loi sur la langue, sur la laïcité. Canada, c'est pas la même chose. Est-ce que pour vous, ça n'a pas été le cadeau inespéré là, qui vous a permis de prendre la vague puis de grimper? Parti sur...
Il y a une partie de moi qui dit oui, c'est comme un cadeau, c'est inespéré. Mais l'autre partie qui dit non, c'est juste un révélateur. C'est pas une nouvelle situation, c'est pas une nouvelle perception que le Canada a du Québec. On fait juste le voir davantage. Il a été normal dans la vision canadienne de l'animatrice ou de l'organisation ou de la production de ce débat-là de commencer par ce qui fait figure d'agression grave contre la culture ou les valeurs québécoises. Puis pour eux autres, c'était normal. On le voit plus, on l'entend plus. L'objectif, ou comme mon objectif au débat, et j'ai pas eu besoin de forcer fort, ça s'est pratiquement fait tout seul, c'était de démontrer la différence et le double langage de la politique canadienne quand on parle en français au Québec, quand on parle en anglais au Canada. Et si on s'est posé la question quant à ce qu'allait être la question de l'urne, au moins au Québec, on commence à la connaître. C'est le droit d'être Québécois.
Mais après ce vote-là, il va y avoir un gouvernement, vous allez être là, à la Chambre des communes. C'est pas toujours un peu ça. Le Québec s'embrase, le Québec est en feu et flamme, puis après ça, pouf, ça s'éteint.
Mais le Québec a peut-être davantage que d'autres endroits au Canada un comment dire, un côté latin, un côté chaud, un côté bouillant. C'est notre tempérament. On est des gens passionnés. On le vit dans le quotidien, puis on est fait comme ça. Et ça nous distingue passablement, peut-être, de l'ensemble du continent nord-américain qui est davantage anglo-saxon. Mais dans le cas présent où, si on prenait des exemples historiques, des fois, ces braises-là, elles restent présentes et elles se manifestent lorsque l'occasion se présente aussi.
Mais en même temps, puis je pense à des auditeurs nombreux qui m'ont écrit en disant c'est pas une question de racisme. Le mot était mal choisi. Mais quand on restreint certains droits, quand on met dans les lois des clauses dérogatoires nonobstant, il y a un fond de discrimination. On discrimine tel type de personne pour telle raison. C'est quand même vrai sur le fond.
Il y a deux choses. Un,
on
enlèverait un droit si on cautionnait le principe de ce droit tel qu'il existe dans la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pas la Bible, la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a été conçue et rédigée dans le but d'être une restriction aux valeurs, aux perspectives linguistiques, surtout à l'époque pour le Québec. Donc, c'est pas une définition très philosophique du droit, c'est une définition très orientée du droit par la Charte canadienne. Le deuxième élément, on dit seulement que des gens qui exercent un pouvoir, une autorité sur d'autres citoyens ne peuvent pas manifester leurs préférences religieuses dans le cadre de leur travail. C'est comme si moi, je travaillais à la Société de l'assurance automobile puis j'arrivais avec un gros T-shirt marqué « Votez Bloc québécois », on me dirait « t'as pas le droit ». Et l'autre principal argument, c'est comme si la religion était une valeur progressiste. Il n'existe aucune religion qui ne soit pas discriminatoire à l'endroit des femmes. Point final, on n'a pas affaire à laisser entrer ce type d'influence dans les décisions de l'État. L'État doit être laïque parce que c'est la seule façon d'assurer l'égalité des femmes au sein des institutions publiques. Alors, quand c'est des gens en autorité, c'est d'autant plus important.
La légitimité n'est pas en cause, mais le fait que des gens se sentent, parce qu'ils sont religieux, puis on peut être en désaccord avec leur religion, Il y a des gens pour qui la religion est importante, pour qui non seulement c'est la religion, c'est la culture aussi. Ça devient des symboles autres que religieux. Il y a quand même une certaine forme de discrimination.
Le seul élément auquel on leur demande un certain nombre d'heures par jour de renoncer, c'est de porter des signes religieux dans l'exercice de la fonction, si c'est une fonction en autorité. Ça ne change pas la liberté de conscience. La religion est un choix personnel, c'est quelque chose qu'on vit sur une base personnelle, plutôt privée, quoique collective, dans l'exercice du culte, dans un temple, dans un lieu de culte. Mais on leur dit pas d'abandonner leur religion, de renier leur religion, rien du genre. L'État québécois dit, si vous exercez une autorité, une contrainte, un poids, une pression, vous pouvez obliger quelqu'un à faire ceci ou cela, et que vous le faites en portant un signe religieux, vous ne respectez pas le principe de la neutralité de l'État. Dans le contexte actuel des dernières années, et Dieu sait qu'on en parle depuis un certain nombre d'années, c'est de plus en plus évident que la contrainte est toute petite par rapport à l'enjeu.
Autre dossier important, sur le dossier du troisième lien, mais sur les questions environnementales de façon plus large. Vous dites le troisième lien, je ne me prononce pas parce que c'est un dossier québécois, ça relève des compétences de Québec, point à la ligne. Mais en même temps, les Québécois ont envie de savoir ce que Yves-François Blanchet pense sur ces... C'est pas banal, quand même, le troisième lien. Il y a des sommes fédérales, ultimement, qui pourraient être investies.
Je me suis étiré le coup, quand même, bien davantage que je l'aurais fait normalement là-dessus. Je dis et j'ai dit que ça relève de Québec et que moi, je suis convaincu que ce projet-là, qui n'est pas du tout à sa version finale, peut avoir des vertus environnementales. Parce que je m'attarde assez peu au coût du projet à ça, parce que je pense que toutes les régions du Québec ont le droit d'avoir des grands projets d'infrastructure puis que le lien entre deux centres-villes n'est jamais une mauvaise chose. Et le gouvernement est peut-être en train, puis ça, on verra quand on l'aura final, de démontrer qu'il est capable d'avoir une grande sensibilité environnementale à Québec quand on est sur le bord de se faire annoncer que l'État québécois renonce définitivement à toute forme de soutien ou de participation à des projets dans les hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole. C'est une extraordinairement bonne nouvelle.
Mais votre gouvernement, à l'époque, est en train d'explorer la possibilité encore, ça fait pas si longtemps.
J'aime la formulation, explorer la possibilité. On n'était pas rendu là, puis moi, je me levais pas le matin pour aimer ce projet-là. Là, ma job,
c'était... Vous n'étiez pas d'accord avec Mme Marois là-dessus? Là.
Je tripais pas, mettons, mais c'était des décisions qui se prenaient bien au-dessus de moi, puis j'étais un peu... Okay. J'étais le tannant dans l'affaire. Là. Il n'aimait pas trop ça, mais c'est normal. Ça. J'en ai reparlé plusieurs fois avec Mme Marois ensuite. C'était normal, c'était ça ma job, c'était ça mes convictions. Mais je ne pouvais pas faire virer un gouvernement de bord. Je veux dire, j'aurais juste pu être ministre le même matin.
Il y a des candidats chez vous qui se sont exprimés contre le troisième lien, de façon là, publique. Oui, avant d'être candidat, mais ça veut dire qu'ils ont des opinions.
Oui, mais, non, mais tout le monde a des opinions
mais
personnelles.
Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pourquoi vous enfermez dans cette logique, c'est Québec, m'en mêle pas?
Parce que la job du Bloc québécois à Ottawa, c'est de préserver les prérogatives de l'Assemblée nationale du Québec ou de l'État québécois.
Mais allez-vous défendre peu importe ce que Québec vous demande?
Je n'ai pas, non, mais l'Assemblée nationale, plutôt. C'est toute la nuance est là. Alors, il y a des gens au Bloc québécois qui, à titre personnel, ont des opinions sur plein... J'ai plein d'opinions sur plein d'affaires que j'apprends à chaque jour que je suis mieux de pas tout dire ce que je pense parce que c'est pas ça ma job. C'est pas ça le mandat que les Québécois m'ont donné quand ils m'ont envoyé à Ottawa. Maintenant, quand tu rentres dans la structure du parti, tu dis, ben oui, j'ai déjà exprimé mon opinion personnelle, mais là, j'ai adhéré à un autre format d'engagement social, d'engagement politique, qui fait que j'ai une réserve. Et tout le monde au Bloc, tout le monde, dans leurs convictions profondes, reconnaissent que c'est une juridiction de Québec. Et tu dis pas, je vais défendre le Québec quand je suis d'accord, puis quand je serai pas d'accord avec le gouvernement qui est là, je vais aller contre le Québec. C'est pas ça, le Bloc québécois.
Oui, mais le gouvernement n'est pas le Québec, nécessairement. Vous me parlez de l'Assemblée nationale.
Il est issu de l'Assemblée nationale.
Oui, mais il y a un changement de gouvernement demain. Puis le gouvernement qui est en place est contre le troisième lien. Allez-vous défendre l'opposition au troisième lien?
Je vais défendre le droit du nouveau gouvernement du Québec d'aller à l'encontre du troisième lien ou de faire complètement autre chose.
OK, mais ce que vous me dites, dans le fond, peu importe qui est au pouvoir au Québec, vous allez toujours défendre la position du Québec.
Non, je vais défendre la juridiction du Québec. Et la différence, elle est importante. La juridiction amène ou protège une décision qui est prise par l'État québécois.
Est-ce que je comprends que le caucus n'aura pas à débattre de cette question-là?
Le caucus n'a pas à débattre du fait qu'on respecte les juridictions du Québec. Il fallait que le Bloc québécois ait un débat à chaque fois qu'il faut se demander si on respecte les juridictions du Québec, on n'a pas fini.
Mais si un débat sur l'environnement, un débat au sein du caucus, est-ce qu'un tunnel, ça s'inscrit dans une logique verte?
Ah ben là, personne ne vous a dit qu'il n'y avait pas eu de conversation à ce sujet-là.
Mais là, j'ai compris que ça ne serait pas débattu, là.
Vous avez lu un titre de journal.
Non, j'ai lu l'article.
Mais l'article ne disait pas exactement quel titre. Si on a vu ça, tout l'ensemble de l'histoire du troisième lien... Et je me rappelle, je pense qu'on en a déjà parlé, vous et moi, personne ne m'a sorti une citation de ma part où je disais que j'appuyais le troisième lien. Mais toutes les
Mais vous êtes assez habile pour dire, à dire à Québec, je l'appuie sans le dire formellement, mais en disant il y a moyen de bonifier le projet.
Ben moi, si Paul Arcand me dit que je suis habile, je le prends comme un compliment.
Non, mais sérieusement, là, c'est habile quand même de dire, je dis pas formellement je l'appuie, mais en même temps, il y a moyen de le rendre vert. Avouez que ça revient pas mal à la même chose.
Ça. Non, c'est pas de l'appuyer, c'est de dire qu'il y a moyen de le rendre
mais
vert.
Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de me dire je suis pour ou contre ce projet-là, même sur le principe d'un tunnel?
Ah non, je ne suis pas contre le principe du tunnel. Si ce tunnel-là, mettons ça à l'extrême, on se gâte. C'est juste du transport collectif. Il y a des gens qui seraient contre pareil, parce qu'ils sont contre le fait qu'on crée des liens entre des centres-villes, ça favoriserait l'étalement. Mais moi, je dis les gens qui sont à Lévis ont le droit de vivre, ils ont le droit d'exister. Si c'était totalement du transport collectif, on serait dans une autre dynamique complètement. La version finale de ce projet-là, qui a déjà beaucoup évolué, est pas sur la table. C'est pas fini. Okay. Les consultations sont pas faites, les évaluations environnementales sont pas faites, l'acceptabilité sociale n'est pas complètement acquise par l'État québécois. C'est sa responsabilité. Moi, je veux forcer Ottawa à mettre, et c'est ça la demande de l'État québécois et de l'Assemblée nationale d'ailleurs, prend tout l'argent des infrastructures, mets-la dans une enveloppe, envoie-la à Québec. C'est pas ta juridiction, c'est à Québec de faire ses choix avec les villes.
Quelle est l'utilité et l'efficacité du Bloc face à un gouvernement majoritaire?
L'histoire a démontré que le Bloc a toujours été capable de se positionner. Il y a des gains importants qui ont été faits, même quand c'était majoritaire. Mais je ne vous cacherai pas l'évidence. Le portrait qui se dessine présentement est peut-être le meilleur pour le Québec. C'est lorsqu'on dit, OK, on veut pas de gouvernement majoritaire, quelle que soit la préférence d'un individu ou de l'autre. Moi, j'aime mieux libéral, moi, j'aime mieux conservateur, mais si les gens ne veulent pas que ce soit majoritaire parce que personne n'a démontré mériter une majorité au sein du prochain Parlement, la meilleure protection est au Québec, la seule qui existe pour défendre les intérêts du Québec, promouvoir les intérêts du Québec, être l'espèce de chien de garde de ce qu'on voit se passer, c'est clairement le Bloc québécois. Il n'y en a pas d'autre. On a dit du Bloc québécois qui avait coûté la majorité à Justin Trudeau la dernière fois. Je pense que la démonstration est assez claire. La meilleure manière est de mettre de l'avant ce qui est bon pour le Québec et d'éviter une majorité, c'est de voter pour le Bloc québécois. Mais je suis pas un tenant du vote stratégique. Je dis toujours aux gens, votez avec votre cœur, votez avec votre conscience, votez avec vos convictions, puis on verra ce que ça donnera après. Mais mathématiquement, on peut pas nier que l'évitement de la majorité s'appelle Bloc québécois.
Mais en même temps, vous allez devoir, avec un gouvernement minoritaire, jouer avec des dossiers à la pièce. C'est-à-dire qu'on va vous solliciter pour essayer de faire passer des projets de loi. On peut penser aux armes à feu, on peut penser à des questions environnementales. Bref, ça va être à la pièce.
C'est
peu importe
à la
qui
pièce.
Est le PM.
Là. Le Bloc québécois, en tout cas depuis que je suis là, c'est toujours comme ça. Puis je répète toujours la même affaire, puis je vais le répéter encore. Si c'est bon pour le Québec, on va être pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on va être contre. Et en général, on réussit à améliorer les choses avant de les voter, de les adopter. Ça a été vrai pour la radiodiffusion, ça a été vrai pour l'aluminium, ça a été vrai pour les 50 semaines en cas de maladie grave, ça a été vrai pour les fonds de retraite protégés. Il y a plein de dossiers sur lesquels on a obtenu des gains en discutant, en négociant. Ça donne beaucoup de leviers au Québec.
Avez-vous parlé à O'Toole en privé? C'est-tu vrai? Pas vrai, cette rencontre?
J'en ai parlé à O'Toole en privé.
Jamais après le débat.
La seule affaire qu'on a vue, on s'est croisé sur le plateau, puis je dis, ah, ça a l'air que t'as besoin d'un chien de garde, ça va être moi. Et ça, il y avait un petit problème, c'est qu'on était en conversation privée après le débat, sauf que j'ai encore mon micro sur moi, et les deux personnes à qui j'ai parlé, je me suis fait poser des questions sur ce que je leur avais dit. En termes de déontologie, on a peut-être un petit problème, c'est pas le seul qu'il y a eu au débat anglais.
Avec lequel des deux, Trudeau, O'Toole, vous êtes les plus faciles à travailler?
Sur les enjeux de juridiction et d'identité, je pense que M. O'Toole est davantage parlable que M. Trudeau. Sur les enjeux de valeurs sociales, allons-y sur l'aide médicale à mourir, par exemple, ou le contrôle des armes à feu ou l'avortement, c'est un peu plus facile avec les libéraux qu'avec les conservateurs. Okay. Donc, il n'y a pas... Encore une fois, à la pièce, il y a des fois où ce sera plus facile avec les uns ou avec les autres, mais nous, notre ADN, c'est d'imposer, de porter, de protéger ce que sont les valeurs ou les intérêts des Québécois dans ce contexte-là.
En terminant, cette campagne-là a démontré non seulement des divisions, mais a démontré que la haine pouvait prendre beaucoup de place, puis l'agressivité. Ça tourne beaucoup autour de la pandémie, de la vaccination obligatoire. Vous avez pas abordé ça. Trudeau l'a fait en disant qu'il voulait imposer la vaccination aux employés de l'État. C'est quoi votre position sur le passeport, sur la vaccination? Vous pensez quoi?
Je vais essayer de vous décliner ça. D'abord, la vaccination des employés de l'État, sa propre responsable de l'ensemble de l'appareil des fonctionnaires avait dit à M. Trudeau, faites pas ça. Il y en a qui peuvent pas, il y en a qui veulent pas, puis on peut faire des tests. Ça n'a pas été long que M. Trudeau a complètement abandonné ça. Il a parlé de vaccination obligatoire dans les transports. Ce qui, sur le principe, si c'est interprovincial, est tout à fait acceptable. J'en ai un peu contre le mot passeport vaccinal. Si on l'utilise dans le sens passeport, passer les frontières, je suis totalement d'accord avec ça. Ça va s'installer à l'échelle internationale. Il faut protéger la santé de notre monde. Tu veux rentrer au Québec ou au Canada, prouve que tu n'es pas une menace pour la santé publique. L'utilisation de ça à l'intérieur du territoire, c'est un enjeu avec lequel le gouvernement du Québec et la santé publique du Québec essaient de composer au mieux. Mais progressivement, il faut que les gens accepte le fait que la seule façon qu'on connaisse maintenant de se protéger, le moins pire des moyens, si jamais on veut apprivoiser des gens qui sont plus hostiles, pour protéger du monde, protéger les plus vulnérables, ça reste à l'heure actuelle la vaccination.
Mais sur le passeport,
c'est nécessaire d'être plus contraignant, je pense qu'éventuellement il faudra.
Mais vous n'êtes pas confortable avec le passeport pour aller au restaurant, là, ce que je comprends, ce que vous me dites.
J'avais des appréhensions, je le vis à l'heure actuelle parce que Dieu sait que je déjeune pas souvent à la maison. Je sors mon petit machin, ça va devenir tout à fait normal et banalisé. Et si c'est un moyen qui nous permet d'éviter la maladie et éventuellement de sauver des vies, je demande humblement à tout le monde d'avoir le sens des responsabilités, d'être ouvert à la demande de la santé publique du Québec.
Une dernière question. Quand on vous dit que vous êtes arrogant, baveux, autoritaire, vous prenez ça comment? Un compliment ou vous êtes fâché?
J'ai pris la décision au milieu de la campagne de prendre le risque du franc-parler et de prendre le risque de me faire parfois traiter de baveux, mais de ne pas faire la langue de bois, de ne pas apprendre mes réponses par cœur, de ne pas me laisser formater. Je ne prépare pas les rencontres, je prépare pas les entrevues comme celle de ce matin. Je dis, M. Arcan va me poser une question, je vais y répondre à la vérité telle que je la vis, telle que je la perçois maintenant. C'est sûr que parfois, en point de presse, le ton peut lever un petit peu, puis il m'arrive rarement d'avoir un peu de tempérament, mais j'aime la radio parce que c'est un média qui te permet d'être calme, posé, développer tes idées et dire ce que tu penses être la vérité. Mais j'aime mieux le franc-parler qu'apprendre des réponses par cœur.
M. Blanchet, merci d'être venu ce matin.
Un grand honneur.
Et François merci. Blanchet, le chef du Bloc québécois.
L'essentiel de Paul Arcan.
Encore et encore des coups de feu. Cette fois, c'est à Laval. Deux hommes qui ont été blessés par balle. Un homme a été arrêté. Bénédicte Lebel est dans le quartier Chaumédé où ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as comme information?
Écoute, j'ai pu en apprendre un petit peu plus dans les dernières minutes, Paul, parce que j'ai pu parler avec le propriétaire de la résidence où ça s'est passé, un père qui est inquiet, qui essaie de comprendre ce qui s'est produit, qui a vraiment eu peur. C'est en plein quartier résidentiel là, sur la rue Léandre-Descôtes. Et ce que je comprends, c'est que ça commence vers 22h45. Trois jeunes qui sont réunis, semble-t-il, qui sont souvent aux alentours du garage, traînent souvent dans le garage de la résidence. Et les voisins m'ont parlé de 6-7 coups de feu. Donc, deux hommes de 19 et 20 ans qui ont été blessés par balle. Ils ont été retrouvés devant la résidence. On ne craint pas pour leur vie à ce moment-ci. Et le garage de la résidence, ben, le père a une compagnie d'électronique et il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, probablement que avec un projectile, il y a un incendie qui s'est déclaré là, dans le garage. Le fils du propriétaire lui a pas été blessé, mais ses amis, oui. Et c'est ce que l'homme m'a dit, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, que la maison est visée. Ça s'était aussi produit en 2020. On peut écouter l'homme.
Ça se peut, c'est lié à mon fils. Ça se peut, c'est les mêmes personnes qui l'ont fait la dernière fois. La personne qui est venue était là pour les tuer. Elle était là pour un assassinat. Elle n'était pas pour les faire peur ou les faire blesser.
Alors, il essaie de comprendre. Ce qu'on dit, c'est que les victimes étaient connues des policiers. Et ce que je comprends, moi, c'est que le reste de la famille est à l'extérieur du pays. C'est une famille dans cette maison-là qui a plusieurs enfants. Et le père me dit être vraiment démuni devant ce qui se passe, comprend que c'est peut-être lié à son fils, mais n'ose pas s'imaginer ce qui aurait pu se produire. On peut l'entendre à nouveau.
Je peux pas vous dire comment je sens. Je suis perdu, je suis sur le choc. C'est un cauchemar.
Alors, comment agir quand ça fait deux fois que ça arrive? C'est quoi les solutions? C'est ce qu'il me disait. Donc, il y a eu arrestation à Montréal, un homme de 19 ans autour de minuit. C'est quelqu'un qui vient de Montréal. C'est des informations qui ont été reçues, là, des témoins qui avaient vu notamment la plaque d'immatriculation. Lui a été arrêté à bord de son véhicule. La personne, le suspect, n'est pas connu des services policiers à ce moment-ci, présentement en interrogatoire. Devrait comparaître ce matin, possession d'armes à feu, d'avoir déchargé une arme à feu, de complot également. Et on en parlait un peu plus tôt à la s'est rendu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements. On parle de plus d'une trentaine d'événements depuis le début de l'année liés aux armes à feu. Dans le voisinage ici, les gens sont inquiets. Il y en a qui ont dû quitter là, parce qu'il y a eu l'incendie, il y a eu les coups de feu, quitter au beau milieu de la nuit, pieds nus avec les enfants pour s'en aller plus loin. C'est la deuxième fois que ça arrive, c'est loin d'être assuré.
Je comprends. Merci beaucoup, Bénédicte. Avec nous maintenant le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Un cas, c'est pas sur votre territoire, le suspect est arrêté sur votre territoire, mais quand même, il y en a eu des comme ça aussi à Montréal. Qu'est-ce que vous dites comme directeur de police à un père là, qui sait plus quoi faire?
On comprend les familles et les citoyens actuellement d'être préoccupés par les événements qui se produisent, puis on dit, écoutez, donnez-nous la possibilité de travailler, donnez toutes les informations que vous pouvez me donner en rapport avec ce qui se passe. Je comprends qu'est-ce qui est arrivé à Laval la nuit passée. On a évidemment ce genre d'événements qui se produit sur notre territoire. Alors, on a besoin de la collaboration de la population. Le moindre petite information est importante pour nous aider à faire avancer les enquêtes.
Est-ce qu'à votre connaissance, là, les informations entrent? Est-ce que vous en savez plus ce matin qu'il y a deux semaines, il y a deux mois?
Oui, il y a beaucoup d'informations. Justement, je parlais avec les responsables d'Infocrime la semaine dernière, puis on me dit qu'eux ont une augmentation importante de citoyens qui rapportent des informations qui sont transmises à notre organisation. Alors oui, la collaboration du public est présente, puis il faut continuer dans ce sens-là. La moindre petite information est importante.
Pourriez-vous me définir qui sont les gens qui se tirent dessus dans le sens suivant, là? C'est une guerre de gangs, de territoires, c'est des individus où la moindre frustration les fait déraper. On a affaire à quoi?
On a affaire à des gens impulsifs, émotifs, qui, pour des raisons aussi insignifiantes qu'un conflit, une histoire de filles, toutes les raisons aujourd'hui sont bonnes pour aller faire... à les tirer. On a vu récemment dans les médias qu'on parlait de faire des scorés, là. Alors, vraiment, c'est la banalisation des armes actuellement qu'on vit, puis on tire pour rien dans des endroits résidentiels. Alors, c'est très préoccupant, on le sait. Puis, on travaille sur 5 axes précisément actuellement pour enrayer cette situation-là. La présence policière active dans les différents secteurs chauds qu'on identifie à chaque jour, on dirige du personnel additionnel. On a des enquêtes actives. On a le renseignement qui est mis à profit. On tente de communiquer le mieux possible à la population. Puis, toute la question de la prévention avec les organismes puis auprès de la population, nos agents sociocom, il y a une grande mobilisation qui est faite dans l'organisation sur ces axes-là actuellement.
OK. On parle des armes, là. J'ai une question assez précise à vous poser. Les armes utilisées, trouvées, saisies, est-ce que ce sont grandement et majoritairement des armes qui viennent du marché noir ou si vous retrouvez des armes qui ont été achetées légalement dans ça?
Principalement, c'est des armes du marché noir, évidemment. On a des ghosts, qu'on appelle des ghost guns, donc des armes qui ont été fabriquées, qui n'ont pas exactement de numéro de série. Vous avez aussi du polymère qui est fabriqué aux États-Unis. Alors, il y a une multitude, beaucoup d'armes de poing, évidemment. La majorité, c'est des armes de poing. Alors, on a plus de 400 armes de saisie depuis le début de l'année en rapport avec des événements criminels. Alors, c'est quand même assez important comme situation.
Mais est-ce que je me trompe si je dis que n'importe quelle loi qui va encadrer la propriété et l'utilisation d'armes à feu au Canada changera pas une chose à la réalité du marché noir puis de ces ghosts là, donc, qu'on utilise justement dans ces actes de violence?
Je crois que c'est les sentences qu'il faut regarder. Alors, il faut avoir des sentences exemplaires dans l'utilisation de l'arme, dans la possession de l'arme, pour démontrer aux gens qui les utilisent, oh, un petit peu, là, il y a des sentences exemplaires qu'il faut avoir. Alors, la loi peut être modifiée, évidemment, parce qu'il y a des choses à faire, de moderniser la loi en rapport avec ce qui se passe, mais les sentences, je pense qu'on doit s'attendre à des sentences exemplaires, compte tenu de ce qui se passe dans la banalisation des armes actuellement.
OK. Vous parliez de la présence sur le territoire, là. Les policiers, vous pouvez pas les inventer, là. Est-ce que je comprends? Je vous donne quelques chiffres, là, puis vous me dites si ça tient la route ou pas. Il y a 30 duos par jour, si on résume ça, là, qui sont consacrés à surveiller les quartiers chauds de Montréal, puis à être présents. Ça a-tu de l'allure ou pas quand je dis ça?
Ben, j'irai un petit peu plus loin, Monsieur Arcan. En 30 duos, il y a tout près de 200 personnes actuellement dans l'organisation qui sont mobilisées à tous les niveaux, en soutien, en enquête, en présence
mais
active. Pas,
moi, je vous parle sur le terrain, là, pour que le citoyen voie la police. 30 duos, ça a-tu de l'allure, ça?
Juste pour ça, oui, ça a de l'allure juste pour ça, mais ça, c'est à part de tous les autres duos qu'on a dans les PDQ.
Oui. Okay. Je comprends. Mais compte tenu des effectifs que vous avez, êtes-vous en train de dégarnir des postes pour envoyer des patrouilleurs dans des endroits où c'est plus chaud? Autrement dit, là, Vous jouez à promener les duos, mais il n'y a pas plus de police qu'avant sur le territoire, là.
Ben, écoutez, vous avez raison, il n'y a pas plus de policiers sur le territoire, mais il y a une affaire et une chose. Comme directeur de police, ma préoccupation première avec mon équipe, c'est de s'assurer d'assurer la sécurité de la population. Alors, on a une situation qui prévaut. Alors, ça aurait été irresponsable de notre part de ne rien faire. Alors, on a pris des dispositions avec les effectifs qu'on avait pour tenter d'enrayer la situation, puis évidemment, éviter ce genre de situation-là. Alors, avec le nombre d'effectifs que nous avons, on a travaillé à organiser pour être présent, puis assurer une présence, puis rassurer, puis retrouver un certain sentiment de sécurité. Est-ce que c'est l'idéal? Non, on peut pas faire ça tout le temps. De là, les annonces qui ont été faites récemment, puis on est en train de réorganiser nos affaires pour être capable de faire face à cette situation sur une longue durée, sur une longue période.
Payez-vous beaucoup de temps supplémentaire à vos patrouilleurs?
Oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire cette année pour différentes raisons. Alors, oui, il y a l'événement de la Coupe Stanley, évidemment.
Mais dans beaucoup. Le cas de cette guerre là, contre les fous avec leurs armes, là,
oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Il y a des gens qui ont dû rentrer pendant leur période de vacances, autant des cadres que des policiers syndiqués. C'est une période exceptionnelle qu'on a vécue cet été.
Quand vous regardez ça, là, puis là, je vous demande pas du renseignement criminel à la radio, là, mais est-ce qu'on est capable d'identifier des leaders, une certaine structure, ou c'est tellement individuel, tellement en changement? C'est pas comme la mafia, là, qu'on a une structure, disons, opérationnelle. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas comparable.
C'est pas comparable. C'est tellement individuel. C'est des jeunes de tout âge qui se regroupent ensemble. Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas d'identification formelle de dire ben, c'est telle personne, c'est telle personne. Il y a un petit groupe restreint, évidemment, qui est connu de par les différents groupes qui sont impliqués. Mais il y a tellement de gens qui tournent alentour d'eux. Alors, c'est très difficile d'identifier les acteurs.
Merci, M. Caron.
Ben, bonne journée, M. Caron.
Au revoir. Bonne journée. Revoir. Sylvain Caron est le directeur du service de police de la Ville de Montréal. On fait avec les effectifs qu'on a. C'est-à-dire que... Je ne partirai pas le débat sur le financement de la police, là, mais c'est un enjeu pour la prochaine campagne électorale qui s'amorce à Montréal. Là. Et on va mettre combien dans la police? Puis dis pas que la solution passe que par la police. Mais quand tu es à Chomédé, là, c'est à Laval, quand puis il y a des élections à Laval, quand tu es à Montréal, dans Parc Extension, ou que ça se met à se tirer dessus, là, dans un quartier résidentiel, puis parfois en plein jour, peut-être qu'on devrait s'interroger sur la présence policière. Puis pas juste le dire, faut que ça sente de la part des citoyens. Puis j'imagine les gens de Laval ce matin qui sont assez affectés par encore une fois. Puis demain, ça va être ça. Puis en fin de semaine, on va avoir d'autres cas. Puis lundi matin, on va revenir. Puis ça va être encore ça. Ça, c'est malheureusement, depuis le début de l'année, c'est une répétition.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Marianne Saint-Gelais.
J'étais pas fière de mes médailles. Je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons maintenant d'abord de l'entrée en vigueur avec les dents du passeport vaccinal, donc les amendes qui sont prévues, c'est aujourd'hui, resto, gym, spectacle. Donc on devra présenter le code QR et aussi une preuve d'identité avec photo. Entre-temps, on se rend compte que le nombre de cas augmente. Nombre de cas dans les écoles. Heureusement, Québec s'est enfin décidé à déployer les tests rapides. Donc, c'est le patron de la vaccination qui va s'en occuper, qui est une maudite bonne nouvelle. La rumeur veut qu'on teste une classe une fois par jour. Est-ce que ça va être ça? On verra. Puis peut-être dans certains cas, c'est moins essentiel. Mais autrement dit, on a enfin décidé de vider les entrepôts alors qu'on était avec des stocks. Et ça, c'est la santé publique là, qui retardait ça de beaucoup. Premier constat. Deuxième constat, il y a des cas à l'hôpital. Les gens qui y sont sont plus jeunes, on le sait. Et ce sont des gens qui sont non vaccinés pour la grande majorité. Et je voyais des cas de moins de 50 ans qui sont plus nombreux. Retour COVID aussi dans certaines résidences pour personnes âgées. Puis on connaît tous le principe. C'est des gens qui disent « Ouais, mais c'est quoi votre problème avec les non vaccinés? Même si c'est assis à côté de moi. » Puis bon, on m'a répété une vérité du docteur Weiss, là, mais en gros, là, Le vaccin, c'est pas 100% de protection. Le vaccin vient, on le souhaite, atténuer les effets de la COVID. Et sans la vaccination, puis on le voit, les chiffres sont, me semble, assez clairs. Même Éric Duhaime reconnaît que les chiffres ont l'air de montrer que le vaccin fonctionne. Alors, ça, c'est le premier. Maintenant, les gens non vaccinés ont une charge virale plus importante. J'ai pas envie d'être assis à côté de quelqu'un qui a une charge virale plus importante, même si je suis double vacciné. Puis pensez ce que vous voulez, mais je pense que c'est l'opinion de la majorité des gens, de la très grande majorité. Et c'est pour ça qu'il y a ce passeport vaccinal. Parlons maintenant de l'impact sur le réseau de la santé. J'en fais presque une obsession, des patients non-COVID. Hier, Christian Dubé a dit qu'on ne sera pas dans la cible pour ce qui est du plan de rattrapage. On le sait, il y a toujours une liste d'attente au Québec. Elle s'est allongée durant la période de la pandémie. On a fait des ententes avec des cliniques privées. Sauf que, ben là, ça recommence. Et je voyais ce matin Radio-Canada qui parlait de l'utilisation des salles. Tu prends un hôpital, c'est 3 salles sur 5. Parfois, c'est 3 jours semaine. Les médecins veulent opérer, mais il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas le personnel. Puis là, avec la vaccination obligatoire, ben on s'attend à ce que des gens également quittent le réseau. Docteur Serge Legault est le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Docteur Legault, bonjour.
Bonjour, Serge.
Commençons par un peu le portrait terrain, là. On est 15 septembre. Depuis 2-3 semaines, là, comment ça se passe, les activités chirurgicales au Québec? Est-ce que c'est au ralenti? C'est une vitesse de croisière? C'est quoi le portrait?
Ben, c'est au ralenti, c'est certain. Il y a eu une période durant l'été, avant l'arrivée de la quatrième vague, où une grande majorité des équipes chirurgicales travaillaient à un niveau quand même très acceptable. Si on compare, parce que là, c'était l'été, hein, c'est la période estivale, donc historiquement, il y a beaucoup de salles d'opération qui ferment à cause des vacances du personnel. Mais dans certains hôpitaux, l'activité a été rehaussée à plus de 100%, évidemment avec l'aide des cliniques médicales spécialisées. Là, ce qui se passe présentement avec la quatrième vague, c'est que là, il y a encore du personnel qui est manquant. Vraiment, là, la façon que M. Dubé décrivait ça hier, c'est-à-dire un manque criant, là, c'est vraiment ça. Là, 4000 infirmières, c'est tout un trou dans le système de santé. Donc, même les projections, je vous donne un exemple à mon hôpital. On croyait réouvrir à 11 salles au début septembre. Malheureusement, on est à 10 salles, puis peut-être qu'on va être à 9 salles avec l'évolution là, de la pandémie, puis des absences.
Quand vous me dites 9 salles, là, c'est 5 jours par semaine?
Oui, c'est 5 jours par semaine.
OK, mais la salle ferme à 4 heures, c'est ça?
Oui, la salle ferme à 4 heures. Il y a des centres qui sont plus affectés que d'autres. Mais c'est ça, c'est pas, on n'est pas à un niveau où on s'attendait à être, puis je parle pour Cité de la santé de Laval, mais je regarde les chiffres partout au Québec, puis les chiffres confirment que l'activité n'est pas au rendez-vous tel que prévu.
Quand on parle de délestage, là, puis je veux que ce soit le plus clair possible pour les auditeurs, là, c'est quel type de chirurgie, là? Les patients qui écoutent ce matin, là, qui ont tel problème, là, doivent s'attendre à attendre encore plus. Là, on parle de qui, là? Des opérations aux genoux, les cataractes. Qu'est-ce qui va être repoussé en premier?
Bon, ça, c'est la question à laquelle j'aime beaucoup répondre, là. Deux choses, M. Arcan. La première chose, c'est qu'avec le déploiement de plusieurs cliniques médicales spécialisées, il y a beaucoup de patients qui cotaient pour ce qu'on appelle la chirurgie d'un jour, qui ont pu être faits dans ces cliniques médicales spécialisées-là. Je parle de l'orthopédie mineure, je parle de la cataracte. Il y a beaucoup, beaucoup de cataractes qui se font dans les CMS. Ces patients-là ont eu la chance d'être opérés. Et si on priorise les patients par ordre, par importance du diagnostic, c'est sûr que si on arrive dans une situation où est-ce qu'il faut absolument opérer les patients les plus malades, ben, ça va être les victimes de la première, puis de la deuxième, puis de la troisième vague qui vont encore être victimes du délestage. Donc, des patients qui, malheureusement, même s'ils attendent depuis longtemps, vont être obligés d'attendre encore plus. Parce que si j'ai le choix comme gestionnaire du bloc opératoire d'opérer un patient qui a un cancer versus un patient qui a une maladie bénigne, je vais opérer le cancer tout le temps, peu importe. Le nombre de la vague qu'on subit. Alors, c'est une réponse déprimante pour les patients qui attendent, mais c'est la réponse honnête à la question que vous me posez.
L'autre question. Je comprends qu'il manque 4000 infirmières. y a-tu moyen de regarder des scénarios? Parce qu'on va pas les ramener les 4000, là, puis tu sais, j'essaie d'être le plus pratique possible. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être assignés à des blocs opératoires? Ils ont peut-être pas la formation, la spécialité, ils ont peut-être pas tout ce qu'il faut, mais ça pourrait permettre peut-être de rouler dans le cas de certaines chirurgies. Je sais pas, moi, je suis pas chirurgien. Êtes-vous capable de travailler avec des, je sais pas, des infirmières auxiliaires ou ça vous prend vraiment du monde très spécialisé?
Ben, c'est une question délicate à répondre, mais je vous dirai ceci, M. Arcan. L'introduction des infirmières auxiliaires dans un bloc opératoire normal, ça fait plus que 10 ans que ça se fait. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de résistance au début de la part des infirmières qui avaient une formation traditionnelle d'infirmières versus les infirmières auxiliaires dont la formation est différente, à accepter, si vous voulez, de faire partie du groupe d'infirmières qui travaillent au bloc opératoire. Mais je vous dirais que la très, 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 très grande majorité des hôpitaux qui ont tenté l'expérience, ça s'est fait de façon tout à fait correcte. Et puis, présentement, je vous donne l'exemple, au CHUM, il y a à peu près 30% du workforce des infirmières de salle d'opération qui sont des infirmières auxiliaires. On dirait, bon, les infirmières auxiliaires ont une formation moindre, ils peuvent pas faire de choses très spécialisées. Au CHUM, là, on conviendra là, que c'est pas des chirurgies ordinaires qui se fait là, c'est des chirurgies tertiaires, quaternaires. Donc, ces infirmières-là peuvent venir rehausser le groupe d'infirmières qui travaillent au bloc opératoire. C'est indéniable que c'est une façon de faire. Partout au Canada, il y a une catégorie d'emploi qui s'appelle les scrub nurses, les instrumentistes. Les infirmières auxiliaires sont un peu plus que des instrumentistes là où ils travaillent au bloc opératoire, mais c'est une façon de voir le problème pour intégrer ces gens-là aux infirmières qui nous aident pendant l'opération.
OK. Docteur Legault, une question sur les urgences. Le ministre Dubé, hier, parlait de revoir l'offre de services. Puis on a vu des cas de salles d'urgence fermées à l'extérieur de Montréal. C'est quoi le portrait des urgences?
Bien, c'est pas très, très réjouissant. Je vous dirais, là, grosso modo, là, à peu près 10 000 patients se présentent aux urgences à tous les jours au Québec. De ces 10 000-là, à cause de l'attente interminable, il y en a entre 1 000 et 1 300 qui retournent chez eux. C'est phénoménal, là. OK? Bon, pourquoi? Parce que pour que l'urgence se vide, il faut que l'étage puisse être capable de recevoir des patients. Et si l'étage est pris avec des cas de COVID, c'est très difficile pour que l'urgence se vide. Ça crée de la promiscuité entre les patients, ça crée des civières dans les corridors, ça augmente le risque de contamination entre les patients et les soignants. C'est pas jojo le portrait aux urgences. Ce qui est le plus inquiétant de toute cette situation-là, c'est que là où on pense de fermer, c'est-à-dire sanitaire en Abitibi, Port-Cartier, sur la Côte-Nord, il n'y en a pas de cas de COVID. Là. Il y a un manque de personnel parce que les gens sont épuisés.
Mais quand on dit fermer une salle d'urgence, là, il arrive quoi quand un patient a besoin d'aller à l'urgence à Port-Cartier?
Ben, ce que je trouve très responsable de la part du ministre, c'est de l'annoncer de façon prospective, c'est-à-dire on croit qu'on va devoir fermer, exemple, 8 heures de temps durant la nuit parce qu'il n'y a pas de personnel. Il y a une ambulance qui est parquée à l'urgence puis qui va recevoir les patients qui ne sont pas ambulatoires, qui doivent absolument avoir des soins, puis là, l'ambulance va partir vers cette île. Puis c'est la même chose à Sainte-Terre. Donc, il y a un plan de contingence qui se met en place. L'urgence est fermée, mais les patients vont quand même recevoir un premier triage où ils vont pouvoir être réorientés ailleurs. D'avertir la population à l'avance, c'est beaucoup mieux que de dire, on fait un communiqué en disant, ben dans 3 heures, l'urgence ferme, débrouillez-vous. Alors, c'est correct de venir voir le problème. En Outaouais, il y a un gros problème avec les urgences à Hull et Gatineau. La population était au courant, puis ça s'est relativement bien passé. Alors, si les gens sont capables d'être mis au courant à l'avance, ben ça leur permet de réagir.
Ils seront malades plus tard.
Ben, ils seront pas malades plus tard, mais ils vont avoir une solution qui n'est pas la solution idéale, on se comprend.
C'est sûr. Merci, Dr. Legault. Bonne journée.
Allez.
Au revoir. Dr. Serge Legault est le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
quel mot utiliser? Est-ce que nos deux stars du tennis étaient en ville hier? Nos deux jeunes hyper talentueux, ils veulent pas se faire traiter de vedette, évidemment.
Mais pas de star mondiale.
Non, non.
Félix Auger a dit, on n'est peut-être pas encore rendu là.
On va se donner un peu de lousse.
Oui, c'est ça.
Bon.
Mais on peut certainement parler, leur statut a certainement changé, en tout cas, depuis les performances aux internationaux de tennis des États-Unis. La preuve, c'est qu'ils ont été invités au Gala du Met lundi soir à New York. Il y en a d'ailleurs été question lors du point de presse d'hier à Dorval. Mais c'est sûr qu'au cours des prochaines années, là, ils sont tout jeunes, 19 et 21 ans. Alors, tu sais, l'avenir est extrêmement prometteur pour ces deux jeunes-là. Et peut-être que dans quelques années, ben là, on pourra dire effectivement des stars mondiales au niveau des Federer, Nadal, Djokovic. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra parler de l'héritage également de
Félix. Oui, quelqu'un qui a posé la question.
Il a dit, écoutez, je suis un peu jeune, j'ai 21 ans, là, mon héritage dans le monde du tennis.
On va commencer par faire ma biographie, là, après ça, on
pourra... Posez-moi la question dans 10 ans, là, puis je verrai.
Alors, avec nous pour parler, évidemment, de ce point de presse, puis de cette dernière, ce dernier 15 jours, pardon, US Open extraordinaire, Bernard Duchesneau, qui est l'agent de Félix Auger-Aliassime, puis qui défend aussi, représente les intérêts de l'élan au Canada. Monsieur Duchesneau, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Paul.
Bonjour.
Donc, ça veut dire qu'on n'est pas rendu encore là au statut de superstar mondial, mais quand même, là, les deux ont fait vivre de grandes émotions, je pense, à tous les fans de tennis, puis même les gens qui sont peut-être pas maniaques de tennis, mais qui ont découvert le sport par le biais de ces deux jeunes.
Oui, les statuts de star mondial, c'est pas ni un ni l'autre. Je crois que c'est des choses qu'ils recherchent. C'est des conséquences pour eux de... tout simplement du bon travail, puis aussi, pas juste sur le terrain, aussi de la façon dont ils se comportent avec les fans, avec les adversaires. C'est comme ça qu'eux, je pense, vont faire leur marque à l'international, mais ils courent pas après ça, puis c'est peut-être pour ça qu'on les aime.
Ouais. N'en demeure pas moins, M. Duchesneau, que vous avez été assez occupé là, depuis les événements des internationaux de tennis et les entreprises qui veulent s'associer à ces deux joueurs. On sait qu'un gars comme Federer, par exemple, est associé à Rolex. Est-ce qu'il y a un profil d'entreprise qui se marie davantage avec les joueurs de tennis et que vous recherchez davantage?
Ben, je pense que on peut pas généraliser pour les joueurs de tennis, mais l'important, puis c'est ce qu'on construit avec Léla qu'avec Félix, c'est vraiment d'aller trouver des partenaires qui épousent les valeurs du joueur et des partenaires qui vont se complémenter entre eux. Donc moi je vous dirais là-dessus, il y a des agents ou il y a des joueurs qui désirent avoir le plus de partenariats possible dans le moins de temps possible. C'est vraiment pas l'approche que j'ai pris avec Félix particulièrement. On aime beaucoup mieux on dit moins et mieux. Ça veut dire qu'on cherche à avoir des partenaires qui comprennent premièrement que Félix n'est pas arrivé. Les objectifs de Félix sont encore beaucoup plus hauts, donc ce qu'on cherche, c'est vraiment d'aller trouver des partenaires qui vont l'aider à atteindre le prochain niveau et idéalement des partenaires qui vont être là depuis le début, qui vont être là jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est pas le nombre, c'est la qualité, puis surtout de s'assurer qu'il y a une synergie, que ce que Félix représente, c'est la même chose que il y a une cohérence aussi entre les valeurs de Félix, les valeurs que la société qui va s'associer à Félix veulent promouvoir.
Vous dites qu'ils sont pas encore rendus là, est-ce que ça veut dire que vous cherchez des entreprises à court ou moyen terme, ou des entreprises qui sont prêtes à s'associer à long terme avec les deux joueurs?
Ben, moi, ça a toujours été des relations long terme qu'on a voulu construire, puis on n'a pas de presse. Félix vient d'avoir 21 ans, Léla vient d'avoir 19 ans, ils débutent leur carrière. Ce qui va définir leur carrière, c'est les prochaines années, donc c'est évident. Il n'y a aucune presse à l'heure actuelle pour signer plein de partenariats. Ce qui arrive là surprend des gens, mais nous, ça ne nous surprend pas, puis on est sur les objectifs.
Mais
encore plus élevé, donc il n'y a aucune presse pour nous, on est là pour 15 ans.
Est-ce que je connais pas ce milieu-là du tout, alors éclairez-nous un peu. On connaît les succès de l'élan fin de semaine, on a vu Félix qui s'est rendu très loin. Admettons qu'il y a une contre-performance dans un autre tournoi, est-ce que ces gens-là se retirent? Est-ce qu'ils sont là parce que ça vient d'arriver, c'est un coup d'émotion? Ça se passe comment?
Ben, il y a là le piège. Ça dépend avec quel partenaire qu'on s'associe. Il y a des partenaires qui sont un peu bipolaires, là. On se le cachera pas. Puis c'est peut-être le type de partenaire qui veulent être là dans la vague quand elle est haute, mais dès qu'elle descend, ils veulent se retirer. Mais après, c'est une question de négociation de contrat. Moi, j'ai jamais signé un contrat qui permettait à des gens de sortir parce que il y a eu une défaite ou une mauvaise année. parce qu'un partenariat, ça va au-delà de ça. Le joueur devient ambassadeur d'une marque de valeur, représente les employés. Si une entreprise va être là uniquement quand ça va bien, il y en a qui vont les signer, ces partenariats-là. Moi, je les signe pas. Puis, j'ai pas des athlètes qui me demandent de signer ça non plus. Je pense qu'ils comprennent bien aussi. Moins, c'est mieux.
Est-ce que c'est, Est-ce que c'est réglé que les producteurs de sirop d'érable?
Je peux pas vous, vous en parler plus, mais oui, il y a des discussions pour répondre à votre question. Ouais. Puis, encore une fois, c'est sûr que aussi, dans, autant dans le cas de Léla que Félix, on essaie autant que possible, on essaie d'aller chercher des partenaires locaux. On le fait, Flair, c'est une compagnie canadienne. Les deux sont associés à cette compagnie aérienne-là. Ensuite, Félix, on a A3S là, qui est une compagnie du Saguenay. On va justement inaugurer l'usine vendredi avec lui. Nous, on adore, si on a le choix, on va toujours aimer utiliser la visibilité d'un Québécois pour aider une compagnie québécoise. Ça, c'est le meilleur scénario. Malheureusement, on peut pas toujours le faire parce que ces athlètes-là ont une visibilité internationale et ont une valeur internationale. Tu arrives à un moment donné, donner un exemple, je sais pas, Félix, par exemple, a signé avec Adidas. S'il y avait un très bon manufacturier de vêtements sportifs ici au Québec qui a pas d'envergure internationale, autant on voudrait s'associer avec lui. C'est pas possible. Il faut vraiment aller avec une compagnie qui a besoin de la visibilité sur les 5 continents parce que c'est ça aussi qu'on a à offrir. Donc, on doit aussi, quand on sélectionne les partenaires, souvent les ramener à la réalité du tennis où les joueurs passent une semaine au Canada à compétitionner dans l'année, mais le reste de l'année font le tour de la Terre. Donc, si une société n'a pas besoin de cette visibilité-là, on ne leur rendrait pas service à faire un partenariat avec eux qui va probablement leur coûter beaucoup trop cher pour les besoins qu'ils ont, alors que nous, on peut rayonner à l'international. On veut faire ça pour des entreprises autant que possible, mais c'est pas toujours possible.
Vous avez dit en entrevue que l'argent fait souvent que des joueuses qui deviennent des noms populaires auprès du public changent leurs priorités. Évidemment, il y a un nom qui nous vient en tête, là, celui d'Eugénie Bouchard, mais ça va dire que c'est un piège qui est assez répandu dans le monde du tennis.
Ben en fait, c'est pas l'argent pour moi, c'est plutôt il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs joueurs qui ont tous des profils différents. Il y a des gens qui je pense que Félix Léla s'inscrivent dans cette lignée-là, qui sont là pour les bonnes raisons depuis longtemps, ont toujours voulu beaucoup plus le trophée que la vie qui vient autour ou l'argent, les tapis rouges. C'est quelque chose qui est ancré dans l'éducation. Ça remonte à très, très loin. Là. Mais je peux pas parler pour tous les joueurs. Puis je parlerai vraiment pas d'Eugénie. Je la connais très peu. Puis j'ai aucun jugement à porter sur sa carrière. Ceci étant, c'est pas tout le monde qui a la même motivation. Puis il faut savoir que lorsqu'on arrive en haut, lorsqu'on gagne ou qu'on se rend en finale, il y a énormément d'efforts derrière de la famille, du joueur, de la joueuse, du joueur. Ça se peut à ce moment-là que ces gens-là se disent « OK, je l'ai fait ». Maintenant, j'ai le goût de lever un petit peu le pied. C'est arrivé chez les gars, c'est arrivé chez les filles, c'est un choix parce que c'est dur d'y arriver, mais c'est pas plus facile d'y rester. Léla et Félix, aujourd'hui, ils pensent à leur prochain tournoi Indian Wells, puis leur premier tour, puis il sera pas facile. S'ils se préparent pas, ils vont le perdre. Ils le savent. Donc, c'est facile de... Radou le coup, je crois, les gens disent que ça vaut 25 millions sa victoire et dans un autre marché. Elle aura des choix à faire. Si pour elle, elle jouait au tennis pour l'argent, elle peut dire mission accomplie. Si elle joue pour des titres, elle va continuer et elle va gagner parce qu'elle a le talent. Mais le piège va être là de dire « je peux gagner ma vie très bien sans jouer au tennis ». Maintenant, ce que j'aime assez le tennis pour continuer, ça va lui appartenir.
Merci, M. Duchesneau. Très gentil beaucoup d'avoir été là. Bonne journée.
Merci à vous.
Bernard Duchesneau, qui est l'agent de Félix Auger-Aliassime, puis il défend les intérêts de Léla Fernandez au Canada.
Et plus tu persévères, plus tu gagnes, plus tu vas faire d'argent aussi. C'est
tout ça, habituellement, assez en
ça,
parallèle.
Ça va ensemble,
oui. Oui, oui, oui. Merci, monsieur.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.